Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour vous présenter ce journal de la radio des Nations Unies. Au menu à Paris, Ban Ki-moon exhorte à agir contre le changement climatique. Le Conseil de sécurité examine la situation en Libye. Les humanitaires s'activent au Soudan du Sud. Des combats violents touchent des camps de l'UNRWA au sud du Liban. Endosser les pénuries d'eau aggrave la souffrance des populations en Syrie. Enfin, les humanitaires pris pour cible en RCA. Deuxième et dernier jour de la visite de Ban Ki-moon en France, le secrétaire général a participé à la conférence annuelle des ambassadeurs organisée chaque année par le ministre français des Affaires étrangères. Il a longuement insisté sur la nécessité d'accélérer les négociations en vue de la tenue de la 21e conférence sur le changement climatique, la COP21, qu'accueillera la France en décembre. Or, a déploré le secrétaire général, cela fait des décennies que les États membres continuent à agir comme si de rien n'était. On écoute Ban Ki-moon.
Nous n'avons pas de temps à perdre. Le temps nous est compté. Le changement climatique est une réalité. Les meilleurs scientifiques ont clairement montré à plusieurs reprises que le changement climatique est une réalité. Il progresse beaucoup, beaucoup plus vite que l'on pensait. Nous avons connu des tendances météorologiques extrêmes et cela est causé par le phénomène du changement climatique. Les scientifiques ont clairement démontré que ce changement climatique est imputable à l'homme. C'est pourquoi nous devons changer et nous devons accélérer le rythme des négociations. Nous ne disposons pas de beaucoup de temps. Nous avons seulement moins de 100 jours jusqu'à la négociation finale. Et en fait, lorsque l'on parle du nombre réel de jours de négociation, en termes juridiques, il ne reste que 10 jours.
Le Conseil de sécurité a examiné ce matin la situation en Libye. Les 15 ont entendu le représentant spécial des Nations Unies pour le pays, Bernardino León, rendre compte de la situation et surtout des résultats de la dernière session du dialogue politique tenue les 11 et 12 août à Genève. Des efforts pour convaincre le Congrès national général à se joindre à l'accord et ce, avant la date butoir du 21 octobre, date à laquelle le mandat de l'organe pourrait prendre fin. Bernardino León a souligné que malgré les difficultés, le processus semblait avancer.
Je suis de plus en plus convaincu que le processus se rapproche finalement de son terme. Cela a été un processus difficile et exigeant, un processus qui s'est avéré particulièrement résilient, malgré les tentatives répétées de sabotage de tous bords avec des intérêts personnels et des agendas étriqués, tentant de s'imposer contre une solution pacifique au conflit en Libye. Le fait que la majorité des intervenants ont cherché à s'engager sur une autre voie était un signe rassurant du soutien que le processus de dialogue a progressivement acquis des différents segments de la population libyenne. Les pourparlers ont parcouru un long chemin dans la réduction du déficit de confiance qui existe entre les différents acteurs libyens.
Soudan du Sud, alors que l'accord de paix de l'IGAD devrait avoir abouti avec la signature du président Salva Kiir ce mercredi. Les humanitaires s'activent sur le terrain où l'insécurité alimentaire sévère affecte quelque 4,6 millions de personnes. Les humanitaires déploient notamment des équipes de secours d'urgence mobiles dans les régions qui sont difficiles d'accès, comme celle menée par le PAM et l'UNICEF à Ouachilouk, près de Malakal, zone ravagée par les violences. Georges Féminien, porte-parole du PAM, revient sur cette dernière opération mobile qui a aidé 27 000 personnes.
Elle a fourni une aide alimentaire à plus de 27 000 personnes déjà. Ça, c'est pour le PAM. L'UNICEF aussi examiner les enfants pour savoir s'ils avaient des problèmes de malnutrition. Il y a plus de 3 000 enfants de moins de 5 ans. L'UNICEF a pu vacciner 8 000 enfants de moins de 15 ans contre la rougeole. Ils ont pu vacciner plus de 7 800 enfants contre la polio. Il y a plus de 400 femmes enceintes qui ont été vaccinées contre le tétanos. Donc voilà une idée du genre d'aide qui a été fournie aux populations de Ouachilouk.
L'UNICEF qui a également lancé une campagne nationale ce mercredi au Soudan du Sud pour augmenter la fréquentation et la participation des enfants dans les écoles dans la région administrative du Grand Pibor. Pour donner l'occasion aux enfants, aux adolescents et à ceux qui ont abandonné l'école à cause de la pauvreté, la discrimination sexuelle ou les conflits. Aussi, un nombre d'écoles, en partie financées par l'Union européenne et l'USAID, ont été transférées aux autorités. Stefano Del Leo, le chef de la délégation de l'Union européenne à Djouba.
C'est un jour en faveur de l'éducation, parce que l'UNICEF célèbre le fait que l'éducation a eu une autre chance d'avancer grâce aux écoles, grâce aux initiatives permettant d'avoir les enfants dans les écoles. Nous avons rencontré aussi des jeunes qui, avant, étaient sous les armes, des groupes qui ont été démantelés. Maintenant, ces jeunes sont de retour à l'école. Autant de signes positifs qui montrent que le Soudan du Sud va de l'avant, et nous espérons que la situation globale apportera la stabilité, une longue stabilité et la paix qui nous permettra de continuer à travailler pour les jeunes générations qui représentent l'avenir. Car le prochain président et les prochains ministres seront issus de cette nouvelle génération. Ils doivent être éduqués. Ils ont les meilleures chances de réussir dans la vie, peu importe ce qu'ils veulent faire. Alors ceci est l'avenir du Soudan du Sud que nous commençons à lancer ici, avec l'administration, pour construire quelque chose de positif.
Des combats violents se seraient déroulés lundi à proximité du camp de l'UNRWA d'Ain el-Helweh à Saïda, dans le sud du Liban. Ces confrontations armées ont sérieusement affecté la communauté de quelques 50 000 réfugiés palestiniens. Malgré un cessez-le-feu mardi, la situation reste encore très volatile. L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient appelle à la retenue afin d'éviter une dégradation de la situation. Les explications de Richard Wright, représentant de l'UNRWA à New York.
Suite aux événements, à peu près 3000 personnes ont été déplacées. On a entendu qu'il y avait un cessez-le-feu d'hier. Il semble que ce cessez-le-feu soit respecté par les parties. Mais je souligne que la situation reste très précaire. Évidemment, la situation a eu un impact sur notre capacité de livrer nos services essentiels pour notre population. Il y a des factions avec des agendas différents. Et notre préoccupation principale est de faire en sorte que tout nos réfugiés soient protégés. Il n'y aura pas de retardement de la rentrée. Ça, c'est très important. Je veux absolument insister. Cette date du 7 septembre sera respectée pour les enfants qui font la scolarité aux écoles éventuellement infectées à cause des événements récents.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Retour sur l'actualité, alors que la semaine de l'eau se déroule actuellement, l'UNICEF dénonce les coupures d'eau à Alep, en Syrie, qui menacent les enfants au milieu de la vague de chaleur intense. Certains quartiers sont sans eau depuis 3 semaines, en laissant des centaines de milliers d'enfants qui ont soif, déshydratés et vulnérables à la maladie. Selon l'UNICEF, ces coupures d'eau viennent au pire moment possible. Pour en savoir plus, nous avons joint Geneviève Butin, chargée de la coordination de secours pour l'UNICEF en Syrie.
Au cours de tellement d'années de conflits, la situation en termes d'accès à l'eau s'est détériorée de façon graduelle. Mais le facteur qui empire la situation et ce qu'on décrit actuellement, c'est qu'on note de plus en plus l'utilisation systématique des coupeurs d'eau comme une tactique de guerre par les parties du conflit. Donc, par exemple, autour de la ville d'Aleppo, nous avons recensé 18 instances de coupures délibérées seulement cette année. Et dans certaines communautés, ils se sont retrouvés sans accès à l'eau pendant jusqu'à 17 jours de suite.
Justement, fin juillet, l'UNICEF se félicitait du rétablissement de l'eau à Aleppo. Que s'est-il passé et quelle est la situation actuelle?
L'accès à l'eau demeure à Aleppo, mais de façon très, très sporadique et réduite. Donc, on calcule que les populations dans la ville d'Aleppo et dans les environs ont accès à 30 % de la quantité d'eau auquel elles avaient accès au début de l'année. Ce qui arrive ensuite de ça, c'est qu'à certaines périodicités, les parties du conflit coupent les robinets en soi. Et donc, ils dénient l'accès à l'eau à certaines communautés pour des périodes qui peuvent durer d'une journée à beaucoup plus longtemps. Et ça, c'est assez arbitraire et ça se passe de plus en plus. Donc, en sus de tous les problèmes auxquels fait face la distribution de l'eau, il y a eu ces coupures absolument délibérées comme tactique de guerre.
Quelles sont les conséquences pour la population?
Ça expose toutes les populations, mais en particulier les enfants qui sont vulnérables, à beaucoup de maladies qui sont transmises lorsqu'ils doivent faire recours à des sources d'eau qui sont beaucoup moins sécures. Et donc, on voit une montée en flèche dans certaines situations, des cas de diarrhée, par exemple. On sait aussi que les gens doivent prendre des mesures extrêmes pour pouvoir aller obtenir l'eau pour leurs besoins quotidiens et se retrouvent dans des situations parfois dangereuses. Donc, il y a eu au moins 3 cas en particulier, ou bien spécifiquement, des enfants ont été tués lors de leurs efforts pour aller quérir l'eau au nom de la famille.
Vous dites que les gens prennent des mesures extrêmes. Comment font les gens pour trouver de l'eau lorsqu'il y a ces pénuries et ces coupures?
Alors, les gens se débrouillent de toutes sortes de façons. Il y a des gens qui font accès à des puits peu profonds, donc des sources d'eau qui ne sont pas propres. Ceux qui ont les moyens peuvent encore se procurer un petit peu d'eau à travers des systèmes d'approvisionnement par des camions, sachant que le prix à l'épouse lui-même a augmenté de 3000% au cours de la dernière année pour l'eau dans certaines zones. Donc, les enfants se rendent au puits, se rendent à ces camions et toutes les mesures sont bonnes pour essayer d'obtenir un petit peu d'eau, mais c'est très ad hoc. Et c'est très imprévisible. Et il faut aussi se souvenir qu'en ce moment, on fait face à une grande vague de chaleur en Syrie, donc c'est particulièrement difficile pour les familles de vivre avec seulement 30% de la quantité d'eau auquel elles avaient accès avant en moyenne.
Enfin, dernière question, Geneviève Boutin, à quoi appelle l'UNICEF?
Alors, nous demandons aux parties qui sont en conflit en Syrie de respecter leurs obligations dans le cadre du droit humanitaire international, de cesser immédiatement toutes les coupures intentionnelles et toutes les autres actions qui interrompent l'accès à l'eau et la distribution d'eau en Syrie. Nous leur demandons aussi d'arrêter les attaques sur toutes les installations, équipements hydrauliques, les installations de traitement des eaux et autres infrastructures, et aussi de protéger la sécurité de tout le personnel qui fait de son mieux pour pouvoir réparer ses installations et de faire tout ce qui est en leur mesure pour éviter qu'il y ait des dommages causés aux civils qui sont en train de faire ces efforts incroyables pour pouvoir avoir accès à un petit peu d'eau pour leur famille.
Des travailleurs humanitaires ont été blessés lors de récents affrontements intercommunautaires à Bambari, en République centrafricaine. Ces attaques ont été condamnées fermement tant par la mission des Nations Unies dans le pays que par la coordination humanitaire de l'organisation à Bangui. Les attaques contre les humanitaires sont hélas monnaie courante dans le pays, comme le confirme Salima Mokranis, chef adjointe du bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies à Bangui. Elle est au micro de Jérôme Longuet.
La situation à Bambari a démarré il y a quelques jours après en fait un assassinat d'un mototaxi, c'était le 20 août, qui a provoqué une situation de trouble et d'affrontement intercommunautaire et qui a ajouté d'autres personnes tuées et blessées. On a dénombré 4 morts et 8 blessés. Et jusqu'à maintenant, ces troubles continuent avec beaucoup de regroupements, de blocages des routes, des axes, de l'accès aux différents sites ou aux différentes activités. Nos collègues, pour l'instant, n'ont pas pu encore accéder aux populations.
Alors, est-ce que ce sont tous les humanitaires qui sont touchés? J'ai cru comprendre qu'il y avait notamment des représentants du CICR victimes de ces violences.
Oui, effectivement, dans le cadre de leur mandat et de leurs activités, donc de porter secours aux personnes blessées, ils se sont rendus sur les lieux et ils ont été pris à partie et directement agressés par des personnes sur place. Donc on a eu un collègue du CICR qui a été blessé. Et c'est vrai qu'on est dans un pays dans lequel les humanitaires sont assez fortement touchés par le conflit. On a depuis l'année dernière plus de 272 attaques qui sont référencées et on a 19 collègues humanitaires qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur mandat pendant cette même période depuis l'année dernière, janvier de l'année dernière jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un pays dans lequel il y a un fort taux, un fort nombre d'attaques directes ou indirectes contre les humanitaires et c'est un pays dans lequel les risques pour pouvoir accéder aux populations sont assez forts.
Justement, face à une situation comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est le message finalement que vous avez envie d'adresser?
Ben, je crois que ce pays a traversé une crise très profonde et bien entendu, il ne peut pas s'en relever du jour au lendemain et sans beaucoup d'efforts et beaucoup d'appui et de support. Les acteurs humanitaires intervenant en Centrafrique sont tous là pour contribuer à ce relèvement. Donc il est essentiel que l'ensemble des belligérants respectent et protègent ces acteurs humanitaires parce que sans leur assistance, ce sont des milliers de personnes qui sont encore plus vulnérables et remises dans des situations de précarité ou de besoins absolument vitaux auxquels on ne pourrait pas répondre. Donc je crois qu'en empêchant l'accès aux humanitaires ou en attaquant directement, en ciblant les travailleurs humanitaires, ce sont les populations civiles qui, une fois de plus, sont les victimes secondaires de ces attaques. Donc je crois qu'on ne peut que condamner cette violence et demander une fois de plus à tout le monde, à toutes les parties, que tous ceux qui fournissent l'assistance humanitaire puissent puissent accéder aux populations qui sont dans le besoin, puissent mener leurs activités sans qu'il y ait d'attaque ou d'entrave quelconque envers eux, de telle sorte que les populations pour lesquelles on est là puissent bénéficier de notre présence.
Et c'est avec Salima Mokranis que se referme ce journal de la Radio des Nations Unies. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.